nous inspirer de belles traces pour nous faire rêver. Oh, 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 de belles traces.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Belles Traces. Avec mon invité du jour, nous avons en commun la passion de la glisse, de la neige et quelques années communes en équipe de France de ski. Alors vous imaginez bien que je me fais un plaisir immense d'échanger avec lui, car même si, effectivement, on se connaît bien, je suis sûre qu'il va m'apprendre encore beaucoup de choses. Lui qui a gagné la plus belle des médailles dans la discipline reine du ski alpin, la descente, aux Jeux Olympiques bien évidemment. Et je sais d'ailleurs que ce titre plein d'énergie positive m'a également aidé à gagner, moi, ma petite médaille de bronze quelques jours plus tard, à Nagano en 98. Ouais, je sais, ça fait un moment déjà, hein, mais les frissons sont toujours là. N'est-ce pas, Jean-Luc Crétier?
Oui, bonjour, oui, en effet. Le quart de siècle est déjà passé.
Ben, mon petit Cabou, merci de m'accueillir chez toi.
De rien, merci à toi d'être venu me rendre visite dans mon humble demeure.
J'ai regardé, ça fait quand même... Depuis 2021 que j'essaye de te coincer.
Déjà?
Oui. Tant que ça? Oui, j'avais déjà demandé à te parler.
Oh, donc, à 3 ans dans une vie, c'est rien du tout.
Bon, et d'ailleurs, en fait, tu sais quoi? Je me demandais tout à l'heure, Cabou, ça vient d'où ce surnom?
Alors, Cabou, c'est un diminutif de Kaboubi. Ça vient de très, encore plus loin que ma médaille, hein, bien sûr, puisqu'on était à l'école primaire à La Plagne. Et comme j'étais sage comme une image, que je faisais un peu d'année la maîtresse, un jour elle a dit au milieu de la classe que j'étais un vrai charmeau. Et à l'époque, quand on rentrait de cours, on avait un dessin animé qui s'appelait Shazam. Donc ça, que les initiés s'en souviendront. Et dans Shazam, il y avait un chameau volant qui s'appelait Kaboubi. Et j'ai mon camarade de table, Yves Boyer pour ne pas le nommer, qui un jour a commencé à m'appeler Kaboubi et ça m'a suivi sur tout mon cursus, c'est-à-dire on était ensemble au ski club, donc ça m'a suivi au ski club, on était ensemble au comité, ça m'a suivi au comité. Après lui il a arrêté, il a basculé sur la luge à La Plagne et comme ça avait été initié au comité, c'est resté. Puis Kaboubi c'était un peu long, donc on est parti sur Kaboubi.
Excellent.
Et ça m'a suivi au collège, ça m'a suivi partout, tout au long de ma carrière. Même les étrangers en Coupe du Monde m'appelaient Kabou et je répondais plus facilement quand j'entendais le mot Kabou, par exemple sur une inspection, si je gênais les coureurs ou si il voulait m'interpeller, il m'appelait Kabou. C'est toujours resté. J'ai revu Hannes Trinkel, le champion du monde de Saint-Anton, avec qui j'ai fait toute ma carrière, et qui était un bon ami. Et quand on s'est revu, il me dit oh, « comment ça va Kabou ?» Oui. Voilà, ça reste vraiment ancré au plus profond des gens qui ont connu nos carrières depuis le début.
Oui, c'est génial. Alors, depuis le début, justement, t'as commencé quand?
Ça, et fait mal, où, hein, le ski? Ça fait mal aux articulations.
Oui, mais ça va. Oui, on a mal aux articulations, mais tous pareil.
Alors, j'ai commencé au championnat du monde junior en 84, à Sugarloaf.
Oh, mais t'avais commencé avant le ski.
Ah, le ski, pardon. Oui. Ah, je croyais les compétitions.
Ou alors, t'étais
non,
très doué.
J'ai commencé le ski, j'ai gagné ma première course à 11 ans, j'ai commencé le ski à 7 ans. Le ski de compétition.
Un peu comme moi, oui. Ah, d'accord, oui, le ski de compétition.
Après, monter sur les skis, j'ai une photo, ma maman m'a retrouvé une photo. En 70, c'est-à-dire à 4 ans, j'étais déjà sur les skis et je m'amusais sur le front de neige comme tous les gamins de 4 ans. Et après, le cursus que tout bon skieur pratique, c'est-à-dire le club, le comité, le groupe junior et puis le groupe national. Et ma première course, je l'ai gagnée, c'était sponsorisé par L'Express, je me souviens, le magazine L'Express. J'ai encore la coupe, enfin ma maman a gardé la coupe. J'avais 11 ans et c'était une course régionale, enfin locale au niveau district, il y avait 3 districts dans la vallée.
Tu avais des idoles à cette époque? des champions que tu voulais imiter?
Ah oui, oui, ben moi j'avais des idoles, j'avais Stenmark, j'avais Pierre Gros, j'avais des gens qui ont véritablement marqué. Et puis surtout, j'avais la chance d'avoir une cousine qui a fait 2 médailles olympiques.
Bien sûr.
Donc, on va dire que les idoles papier des chambres, pour moi, c'était plus une réalité concrète de terrain. Mm-hmm. Et je me souviens quand elle est rentrée de Sapporo en 76 avec sa 2e médaille olympique, puisqu'elle en a une d'argent, une de bronze, une en slalom, une en géant. Je n'ai pas remis dans l'ordre, mais ça doit être quelque chose comme ça. Je me souviens très bien encore, malgré la différence d'âge, qu'elle m'ait présenté ses 2 médailles, donc une dans chaque main, et en me disant simplement, écoute, ce que j'ai réussi à faire là, tu dois pouvoir être capable de faire mieux.
Ah, c'est fort.
Florence, à 10 ans, quand tu es passionné, que tu aimes ça, c'est plus que fort, c'est marquant. Là, ça va bientôt faire 50 ans et j'en parle encore avec beaucoup d'émotion.
Oui. Ouais, sur ça. Non, mais je trouve, moi, j'ai pas les mots non plus, mais je vois que tu as d'émotion et c'est vrai que Danielle, en plus, elle est Danielle de Bernard, donc hein, elle est très. Elle est très volubile, elle
très explicite,
expressive.
On dit toujours qu'elle est. Elle est tournée vers l'extérieur parce que elle a beaucoup compté dans ma carrière. Après, j'ai eu un grave souci de croissance puisque j'ai eu une croissance accélérée. Il a fallu que j'arrête pendant une saison avec un corset. Et derrière, je trouvais, quand j'ai voulu revenir dans le monde de la compétition, je trouvais plus d'équipementier pour m'équiper en ski. Elle a été la première à demander à Rossignol de me donner des skis par l'intermédiaire d'Olivier Dumas. Et Olivier Dumas m'a présenté des skis. J'ai été cette année, l'année où j'ai recommencé ma saison, j'ai été champion de France de descente en 86 au Menuire junior. Donc voilà, c'est des faits marquants, quoi.
Et toute ta carrière, elle a eu un rôle, elle avait un regard toujours là.
Elle était toujours. Elle n'était pas présente à mes côtés, mais ce que je veux dire, dès que j'avais un coup de mou, dès que sur un simple coup de fil, elle me remettait dans le sens de la marche.
Ah.
Donc ça a été super intéressant pour moi.
Ah bah oui.
Et en plus, j'avais un exemple.
Oui.
J'avais un exemple, j'avais du concret. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'était pas simplement des posters accrochés au mur de ma chambre. Et puis après, j'ai eu toute ma carrière, il y a eu un monsieur qui a beaucoup compté parce que quand on le voyait skier, on rêvait de skier avec sa technique. Il s'appelle Stenmark. Et j'ai eu la chance de concourir avec ce monsieur. Et lors de sa dernière victoire en slalom à Shigakogen au Japon, je fais 10e du slalom.
Oui, parce que tu es champion olympique de descente, mais rappelons-le, tu faisais du slalom aussi, donc c'est pour ça qu'on
j'ai
a beaucoup de points
en commun. Tant que slalomeur.
Oui.
J'ai commencé en tant que slalomeur, donc j'ai commencé, j'ai fait 2 années de suite, 4e en descente aux mondiaux juniors en 84-85. 85, je suis 4e et 3e français quand même. Après, derrière, j'ai continué en slalom et je me suis présenté 2 fois aux Jeux Olympiques et 2 fois aux Championnats du Monde en tant que combinard. C'est-à-dire en tant que praticien en descente et en slalom, mais surtout j'étais un technicien et à l'époque c'était un peu différent les calculs, donc on avait un peu de chance. Et puis derrière, il y a eu la période des Top Gun.
Faut qu'on en parle, la période de Top Gun. C'est pas anodin, cette période des Top Gun.
Si on revient en arrière, Flo, il y a eu les Jeux de 88.
Oui.
88, Franck, il fait 2 médailles.
Franck Picard, donc.
Franck Picard, pardon. il fait 2 médailles, notamment la première de l'histoire du Super G. Et une médaille de bronze en descente. Et Franck, ça faisait des années qu'on parlait, donc avec Franck Picard, Luc Alphand, Denis Rey, Christophe Plé, on disait qu'on avait du mal à se retrouver parce que, bon, moi je jonglais entre les disciplines techniques et la vitesse. Eux, ils étaient plus orientés vitesse, mais on nous imposait aussi, parce qu'à l'époque, il fallait faire toutes les disciplines. Et d'ailleurs, tu sais ce que c'est. On leur imposait d'aller faire du slalom et on avait du mal à se retrouver chaque fois qu'on changeait de groupe. Et donc, Franck, en rentrant de Calgary en 88, et sous l'impulsion du DTN de l'époque, Jean-Pierre Puteau, il provoqué une réunion au niveau de la Fédé et puis il a dit, il faut qu'on crée quelque chose. Soyons fous, avançons dans l'intérêt des résultats du ski français et créons quelque chose. Et Jean-Pierre a suivi, le ministère a suivi aussi, puisqu'il faut financer tout ça. Et donc, on a créé à cette époque le groupe Top Gun.
Vous avez choisi ce nom-là ? Vous, qui l'a choisi ?
En fait, Florence, ça correspond à la sortie du film.
D'accord,
ok. Le premier tome du film avec Tom Cruise et Maverick. Et je me souviens qu'on avait regardé tous le film ensemble. C'est venu presque naturellement, quoi. Ouais. Parce que c'était un groupe... Tom Cruise était véritablement la tête d'affiche de l'élite. Mm-hmm. Et nous, on espérait le devenir. Mm-hmm. Le groupe avait été créé pour qu'on en arrive là.
Et dedans, donc, il y avait Franck
Picard,
Luc Alphand,
Denis Rey, qui a gagné deux fois les X Games.
Oui, et toi.
Et moi.
Et en fait, tous les quatre, vous avez tous réussi en termes...
On peut appeler ça comme ça, oui, mais parce
quand
que...
Même.
et c'est d'autant plus... C'est d'autant plus plaisant, c'est qu'on partait quand même d'une feuille blanche. Bon, à part Franck, qui avait déjà un titre olympique... Nous, on était, on était venus nous greffer là par rapport à des hypothétiques résultats et une volonté d'aller toujours chercher le Graal. Et l'avenir a fait que, à l'époque, on avait demandé un entraîneur atypique. Qui travaillait en tant qu'entraîneur et préparateur physique auprès du bateau français voile. De la Coupe de l'América, donc en voile, et qui faisait les saisons d'hiver en tant qu'entraîneur dans le groupe de vitesse. Et donc, on a validé que ce soit lui, et on était complètement autonome. C'était l'intérêt du truc, c'est qu'on se baladait, mais en étant groupé, c'est-à-dire que on n'était pas isolé et on venait se greffer sur le groupe vitesse, sur le groupe technique, mais on apportait, on va dire, un certain pourcentage. Mm-hmm. Ce n'était pas une entité. Et donc, on apportait à la fois ce pourcentage au niveau coureur, on apportait un certain pourcentage au niveau matériel et un entraîneur supplémentaire. Donc, tout le monde était gagnant à la sortie. Et c'est vrai que ça a marqué toute notre jeunesse, hein, parce que ça s'est fait, on était quand même relativement jeunes, on avait que, pour le plus jeune, c'était Denis, qui a le même âge que moi d'ailleurs, on avait 22 ans, 22, 23, 24 ans. C'est-à-dire qu'on nous donnait des clés d'or en nous disant, voilà, on est prêt à le faire, mais prouvez-nous qu'on fait pas fausse route.
Oui, mais vous êtes quand même approprié votre projet, puisque oui. Vous avez, et je pense que ça c'est super important, dans la vie en général, pour le coup, on vous donne le cadre, mais derrière, vous avez demandé un entraîneur, vous êtes réunis, vous avez accepté le projet, puis vous vous êtes vraiment approprié quoi, pour l'amener.
On vivait en autonomie complète, hein, oui. C'est-à-dire que, et d'ailleurs ça a créé une telle émulation au sein de ce groupe Top Gun, que ça nous a marqué à vie. Serge partait du principe que pour s'entraîner l'été, pas besoin d'aller au bout du monde, notamment pour la préparation physique. C'est-à-dire que chaque membre de ce groupe avait une tâche. C'est-à-dire qu'il devait préparer un stage d'une semaine pour accueillir
les autres.
Le groupe complet.
Génial.
En préparation physique. C'est-à-dire qu'on est allé faire des stages à Serre-Chevalier, on est allé faire des stages au Saisir, on est venu faire des stages, à l'époque j'habitais à Bourg-Saint-Maurice. Et donc, on partait d'un principe que on mettait en communauté notre vie privée. Et ça fait qu'on a... On s'est tiré mutuellement, bon, chacun sa vitesse, mais mutuellement vers le haut par rapport à des découvertes extra-sportives et des intérêts extra-sportifs. Et ce qui nous a véritablement marqué, c'est que ben, quand vous avez 22 ans, que vous n'avez qu'une seule envie, c'est de découvrir la vie à pleines dents, voilà, d'un seul coup, on vous ouvre une porte magistrale et on vous dit, ben voilà, vous avez cette ambition, on vous met les moyens pour. Ne nous faites pas mentir.
C'est aussi oui, simple mais que ça. Le fait de vous responsabiliser aussi sur des prises de leadership dans chaque décision pour faire un stage et autres, vous avez quand même aussi des personnalités bien différentes.
Complètement différentes.
Et ce travail en commun, c'est, humainement, ça devait être pas tous les jours facile, j'imagine. J'imagine qu'il y a eu quelques anecdotes assez.
Rien de facile. Ouais. Mais c'est vrai que ça nous a fait grandir parce que on découvrait, on prenait ce qu'on avait besoin de prendre chez les uns et chez les autres, mutuellement. Et un groupe de quatre, ça reste un groupe de quatre. Donc c'est vrai qu'il y a des moments de tension qui sont démultipliés, on va dire. Parce que plus le groupe est grand, et plus c'est facile. La moindre tension, c'était Serge le fusible, quoi. C'est-à-dire que c'était lui, c'était notre deuxième papa. Et donc c'est lui qui amenait, on va dire, l'apaisement. Et qui faisait redémarrer le groupe dans le bon sens.
Et toi, tu saurais dire qu'est-ce qui t'ont amené chacun dans ton... qu'est-ce qui t'ont amené?
Bien sûr.
Par exemple, Franck, qui t'a amené quoi?
Moi, Denis, il m'a amené, on va dire, l'envie de dévorer la vie à pleines dents. C'est-à-dire de faire véritablement ce que tu as envie de faire le jour J. Franck, c'était un peu c'était l'aîné du groupe. Donc, c'était notre exemple. N'oublions pas qu'il avait déjà deux médailles dans la poche. Et donc, on piochait beaucoup chez Franck parce que on avait besoin, pas de se recadrer, mais de se canaliser.
Oui, et puis en ski, comme...
Et il était apaisant.
Puis en ski, t'as besoin de repères parce que...
Et voilà, et en plus, bon, c'était la locomotive.
Oui.
Mais c'était un peu, celui qui apaisait les choses. Et Luc, on faisait les 400 coups, quoi. C'était un grand frère, voilà, tout simplement. Et donc, moi, j'étais un petit peu le vilain petit canard au début, parce que j'étais le seul slalomeur du groupe. Et donc, c'est moi qui, dans les réunions ou les fins de stage, les briefings ou les briefings, je leur disais, attendez, là, ça ne va pas du tout, quoi. Il faut qu'on fasse de la technique, du slalom. Moi, je vais perdre tous mes repères. Et j'en ai en descente, je suis des années-lumière de ce que vous êtes capable de faire. Et donc, voilà, au début, ça a été un petit peu comme ça. Puis petit à petit, je me suis dit, bon, je ne vais pas me dresser en permanence contre trois avis. Et donc, j'ai pris sur moi-même et j'ai basculé, on va dire, je suis passé du côté
obscur de la force,
du côté obscur à la lumière, voilà. Ouais. C'est aussi simple que ça.
Et est-ce que c'est aussi pendant cette période que du coup t'es allé t'as élargi les virages de plus en plus vers la descente, vers la vitesse? D'accord.
Non, puis j'ai pris vraiment, là où je me faisais peur, j'ai commencé à prendre du plaisir.
C'est-à-dire parce que t'avais peur en descente à cause de la vitesse et des sauts?
Quand t'arrives de la technique, t'as la technique.
Oui.
Mais en pratique, c'est différent. Et je faisais. J'ai fait Calgary en 88, les Jeux. J'ai fait Albertville en 92, où je fais quatrième, malheureusement. Sur la face, quand tu es au départ de la descente, sur la face, même si c'est pas le départ du haut, il faut quand même la skier. Et donc, j'étais. On va pas dire, mais. J'avais pas libéré tout l'écran du frein à main. Parce que j'avais autre chose à préparer. Et puis petit à petit, les derniers crans qui me manquaient à libérer, grâce à eux, j'ai réussi à les libérer. Et après, j'ai fini ma carrière. J'ai une fierté, c'est d'avoir fait 5e à Valois en Super G quand Franck gagne. Ça, ça a été un coup, pour moi, ça a été une surprise complète, puisque je ne m'attendais pas du tout à faire de tels résultats. À l'époque, Franck dominait le Super G, avec il y avait Armand Chilet aussi qui avait gagné une Coupe du Monde. Et moi, quand je gravitais autour de la 10, 15e place en Super G, j'étais déjà heureux. Et là, venir faire ce résultat à Valois en France, presque à la maison, ça a commencé. Je sentais que j'étais passé du côté de la lumière, voilà, pour en revenir à mes paroles de tout à l'heure. Et ça, c'est grâce à eux, c'est grâce à cette période des Top Gun. Après, malheureusement, ça n'a pas duré. Et je pense que ça a été dommageable pour tout le monde. Mais on va dire qu'on avait initié la chose.
Oui.
On était réunis sous un seul groupe, puisqu'on était tous dans la vitesse. Hein, j'avais basculé du côté de la lumière. Et on continuait à se faire plaisir. On se faisait toujours ce petit groupe à l'intérieur du groupe. C'est-à-dire que ça avait tellement marqué les esprits de chacun qu'on est resté sur ces... Enfin, peut-être inconsciemment, mais on s'est dit, en restant sur ces bases, on va y arriver plus facilement. Et donc, voilà, et puis ça a été comme ça jusqu'à la fin de ma carrière, jusqu'à ce que je me mette par terre à Valgardena.
Alors, on va revenir juste avant quand même, parce qu'il y a quand même un truc sympa qui s'est passé avant.
C'est la même année.
C'est la même année, je sais bien. Justement, j'ai des questions, et tu verras, j'ai des questions aussi d'auditeurs, parce que là, on inaugure aussi tout à l'heure des questions, le coin des auditeurs. Tu vois, qui voilà. Oui, j'ai deux questions pour toi.
Bonjour les auditeurs.
Ben oui, parce que bon, ils nous écoutent, donc il faut être sympa aussi, poser leurs questions. Et donc, bon, comment ça s'est passé cette journée-là du février 98? C'était vendredi 13, toi ? D'accord,
ouais. Ok. Vendredi 13, départ 13h30. J'avais le dossard 3 et j'ai fait premier.
Ouais. Et t'as joué au loto depuis ?
J'ai joué au loto, mais j'ai jamais rien gagné avec la même valeur.
Mais ce que je veux dire, c'est que cette performance, est-ce que tu... bien évidemment, quand on est au jeu et qu'on fait partie... T'avais fait des podiums avant à Kitzbühel et...
J'avais fait 3 podiums. Oui. J'avais fait Beaver Creek, 2e. J'avais fait Valgardena 3e et 3e à Kitzbühel.
Voilà, c'est ça. Donc tu montais en puissance. Au jeu là-bas, bon bah on a la météo, hein, avec il neige pas.
Bien, n'est-ce pas, Flo?
Ici à Nagano. Et dès les entraînements, t'as senti que cette piste te convenait ou pas du tout
Non. Disons que. Peut-être à la différence sur ces jeux-là, je partais avec une motivation supplémentaire, qui était de faire une médaille. Je savais que j'en étais capable. Sur les 5 courses précédentes de début de saison, j'avais fait 3 podiums, donc j'étais vraiment...
Sur des pistes complètement différentes, en plus.
Voilà, exactement. Après, il y avait des paramètres qu'on ne maîtrise jamais, hein, que dans nos sports d'hiver, c'est tout ce qui est... réglage. Le dernier entraînement, je tombe, donc je franchis même pas la ligne. Donc pour avoir des réglages, c'est super pointu, parce que voilà, où on vous demande de travailler sur des portions, où on vous demande de faire la descente à bloc à l'entraînement pour qu'on ait des repères plus précis. Et puis derrière ces jours de, on va dire, stand-by à cause du mauvais temps. Et là, j'ai quelqu'un qui m'a aidé, qui m'aidait depuis le début de l'hiver, comme quoi les résultats étaient à la hauteur du travail qu'il accomplissait avec moi. Quelqu'un que je ne connaissais pas, hein, avec qui je communiquais par téléphone et par... pas par mail, ça n'existait pas.
C'était des fax à l'époque.
Des fax, voilà, par fax.
C'était de la préparation mentale ?
Ouais. Depuis le début de l'hiver, il m'a contacté juste avant l'hiver et puis il m'a dit « Jean-Luc, je te suis depuis quelques années, j'ai l'impression qu'il te manque quelque chose pour véritablement développer ton niveau technique et te faire plaisir à hauteur de ce que tu es capable de faire. » Il me dit comme ça, il me dit « Si jamais je ne te demande pas une réponse, si ça t'intéresse, voilà, tu as mes coordonnées, tu me rappelles. » On en a parlé avec ma femme. Je lui dis, de toute façon, ça ne coûte rien. C'était mes troisièmes Jeux Olympiques. Quatrième, pardon. J'avais oublié l'hiver.
Ah, t'as fait quatre Jeux, toi. Ah oui.
Et ouais, ouais.
Ah oui. Joli.
Et donc, voilà, c'était, j'étais plus sur ma fin de carrière que sur le début. Je dis, ça serait quand même peut-être cool de faire appel à lui. S'il peut m'apporter quelque chose, tant mieux. S'il ne m'apporte rien, ça ne sera pas pire. Mm-hmm. Et donc, j'ai validé ça. On a commencé à travailler ensemble au mois de novembre. Donc, la collaboration, elle débutait hein, pour le mois de février, quoi. On était à peine à J plus 90 jours, mais ça a tout de suite été bénéfique, c'est-à-dire que même sur les phases d'entraînement du mois de novembre, début de saison, la preuve en eux, c'est que la première descente cette année-là, c'était Beaver Creek, et claquer une deuxième place à Beaver Creek, et encore j'ai été premier pendant longtemps, hein, puisque c'est Omot qui... Non, c'est Guédina qui me détrône. Et Guénina, il partait dans les derniers, enfin, aux alentours de la 30e place. Donc, après, il y a eu. j'ai eu que des mauvais coups comme ça, mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, pour moi, c'était comme des victoires, ça s'apparentait à une victoire. D'ailleurs, c'est la première chose que je lui ai dit quand je l'ai eu au téléphone. Je lui ai dit, aujourd'hui, j'ai fait deuxième, mais pour moi, c'est comme une victoire.
C'était un préparateur mental.
Il optimisait. Et il m'évitait la déperdition d'énergie.
Mais je veux dire, il avait un diplôme, c'était un vrai...
Ouais, ouais, c'est un professionnel, ouais. Il travaille dans les entreprises du 440.
Mais il n'était pas dans le monde du sport,
pas
du ski.
Tout.
D'accord, ok.
Pas du tout, mais il me suivait, depuis quelques années, et puis il a trouvé mes coordonnées, et il me dit, voilà, moi...
Il a senti...
Il a senti le truc, et donc je l'ai validé, on l'a validé avec ma femme, parce qu'au début, je partais un peu à l'aventure. Donc, comme toute aventure, quand on est en couple, ben, on en parle. Oui. Et puis après, j'ai senti la chose bénéfiquement. C'est-à-dire que chaque fois que... Les contraintes, elles n'étaient pas énormes me concernant, puisqu'il fallait simplement que je sois joignable. À l'époque, les portables n'existant pas, il fallait que je lui envoie
un point fixe.
Mais, les coordonnées auxquelles il pouvait me joindre, c'est-à-dire un téléphone dans un appartement où on était, ou un numéro de fax. Et lui, il écoutait, il me parlait et il me disait, bah, tiens, si, essaye de faire ça, peut-être que ça va arranger les choses. Et c'est vrai que, je me dispersais. J'étais tout... Voilà, j'avais en permanence des voix presque aux antipodes de ce qu'il fallait faire pour être focus sur un résultat.
Dans ta tête, tu veux dire, dans ta tête et tes pensées. Et donc, en fait, ça t'a aidé à clarifier.
Il me refocalisait sur ce que j'étais venu faire et il me donnait des éléments que je mettais en application et c'est vrai que ça marchait, quoi.
Ouais. Tu te rappelles de phrases ou de trucs que tu te redisais ou
non, je ne me rappelle pas, mais il faudrait que je fouille dans mon gros coffre, mais je pense que j'ai tout gardé.
Ouais.
Parce que ça... Il a vraiment marqué, il s'appelait Patrick Gros-Perrin. Tu t'imagines que on a commencé à travailler ensemble en novembre, j'ai fait sa connaissance à la finale, donc cette année-là, à la finale de la Coupe du Monde à Crans-Montana. Je l'ai vu pour la première fois de ma vie. Donc c'est presque c'est surprenant ce que je lui avais voué. Au bout d'un mois de travail, je lui ai voué une confiance totale.
D'accord.
C'est-à-dire que ce qu'il me disait, ou j'arrivais à le mettre en application tout de suite, ou en tout cas, j'essayais par tous les moyens d'arriver à le mettre en application. Après, on échangeait, je lui dis, voilà, là, ça, j'arrive pas. Il me dit, attends, on va prendre une autre voie. Et d'accord. Essaye de faire ça, ça, ça.
Et ça, t'en avais parlé à tes coachs ? Parce qu'à l'époque, c'était quand même pas super bien vu.
J'en ai parlé qu'à mon papa, mon deuxième papa.
Oui, à Serge. Oui, parce que c'était... Voilà,
ouais. Et Serge n'étant plus entraîneur fédéral, puisqu'il était au comité de Alpes-Côte d'Azur. Oui. Donc Serge, j'ai envoyé des messages où on se téléphonait et je lui disais, voilà. Et il me disait, fonce.
Oui, lui, il avait cette ouverture-là. Ce qui n'était pas forcément le cas de...
Oui, parce qu'il arrivait d'un autre monde. Il arrivait de la voile, il avait vu et connu d'autres choses. Et il me disait, vas-y. Et donc, voilà, ça a perduré jusqu'à ce que j'arrête ma carrière.
Oui.
C'est-à-dire en 98, mais le 15 décembre 98. Non, après, on a échangé ouais. aussi parce que après, oui. ça a été un grand vide, donc il a été aussi de, ouais. de bons conseils derrière.
Ouais. On va en reparler un tout petit peu après, mais cette journée-là, tu t'en rappelles précisément du matin où oui. tu te lèves?
Oui, de oui. tout.
De tout, tu te rappelles de tout?
Même 26 ans après, je me rappelle de tout. Le matin, on se lève, une journée, on ouvre les rideaux. J'étais avec Adrien Duvillard dans la chambre. On ouvre les rideaux et là, on voit, waouh, enfin, le beau temps. Enfin! Parce que la pression, elle était juste phénoménale. Et donc, on se dit, bon, bah aujourd'hui, c'est la journée. Et donc, on descend, on fait ce que notre quotidien habituel, réveil musculaire, petit-déj, on remonte, on se prépare. À la différence près, c'est que j'ai simplement oublié de mettre ma combinaison de course. De ça, je l'avais avec moi, puisqu'on est obligé de le présenter pour faire l'inspection le matin de la course. Mais la combinaison de course avec mes affaires de course... J'avais juste oublié de les mettre dans le sac de départ.
C'est un détail, en collant et en souplus, c'était pas mal.
Ben, en fait, j'avais la combinaison chaude oui. et les gros gants de slalom. Oui. Voilà. Enfin, les gros gants de slalom. Les gants,
oui, les gants, gants pas profilés, quoi.
Ouais, mm-hmm. pas profilés du tout. Et donc, on part, l'hôtel étant un peu éloigné, on part en bus, comme tous les jours. On monte, on fait l'arco, on fait l'échauffement... Tout se passait bien, la piste était magnifique, un peu complètement différente même de tout ce qu'on avait connu. Oui. Et puis ben voilà quoi, les heures passent, c'est cool. Et puis au moment d'arriver dans le restaurant au départ pour préparer la descente des Jeux Olympiques quand même, j'ouvre le sac de départ et là, un grand blanc, pas de sac, pas d'affaires. Et ça, c'est, on va dire, à peu près 70 minutes avant le départ. Une heure, oui. 1h10 avant le départ de la course. Donc, c'était déjà midi.
Et tu pars de Sarre 3, quoi. T'as pas, voilà.
En plus, je pars de Sarre 3. Et là, je passe... Mais toi, d'ailleurs, c'est là où je me rends compte que d'avoir fait un travail sur moi-même, là, c'est pas la panique complète. Je prends simplement Stéphane Azola. Dans un coin, j'ai dit « Steph, je crois qu'il y a un souci là. » Parce que la combine que je portais sur moi, elles ne sont pas validées par la FIS, donc on n'a pas le droit de courir avec. On a le droit de s'entraîner, on a le droit de faire tout ce qu'on veut, sauf des combinaisons. Et je lui dis « Je crois qu'il y a un problème, parce que j'avais déjà calculé dans ma tête que ce n'était pas possible de retourner à l'hôtel et de revenir en temps et en heure, pour être là au départ. » Je lui dis « Écoute, il faut qu'on trouve une solution, il faut que tu me trouves une combinaison. » Et là, je me souviens encore comme c'était hier, Steph, il est devenu blanc, mais blanc complet. Je me souviens de sa réflexion, il me dit, mais t'as le dossard? Je dis, oui, le dossard, c'est obligatoire pour rentrer sur la piste, pour l'inspection, t'es obligé de présenter, on va dire, le dossard. Je dis, par contre, les gants, la combinaison, c'est tout resté dans la chambre d'hôtel. Persuadé, depuis 3 jours qu'on faisait cette manip pour rien, que ce jour-là, je l'avais fait, mais je ne l'avais pas fait. Et là, je me souviens, Stéphane est parti, il est sorti devant le resto. Et là, ça a été un balai de messages radio. Oui. Et la problématique, c'est que le temps s'écoulait, l'heure de départ se rapprochait et on n'avait toujours pas de solution. Jusqu'à ce que Adrien Duvillard, je vais quand même vous donner un peu les caractéristiques. Oui. À l'époque, je faisais 1m95, 102 kg. Adrien devait faire 1m70, 72 pour 80 kg. Mais bon, ça c'est la petite aparté. Et là, Adrien arrive, il prend connaissance de ça. Parce que bien sûr, ça avait fait le tour de. Et là, il me regarde, il me dit écoute, moi j'ai une combinaison que j'utilise quand il fait doux. Depuis le début de l'hiver, j'ai fait tous les entraînements avec. Si tu veux, je te la laisse. Moi, j'en ai une neuve pour la course, donc je peux te la laisser. Elle est plombée, enfin, ce qu'on appelle plombée, elle est validée par la FIS. Tu peux courir avec. Et là, je regarde, je lui dis, mais jamais je rentrerai. C'est quand même des combinaisons qui sont faites sur mesure. Oui. Donc, je lui dis, mais jamais... Dans ma tête, je ne lui ai pas dit, je ne me souviens pas de lui avoir dit, mais dans ma tête, je dis, mais jamais je rentre. Et je lui dis, allez, on y va. On s'est mis à... Enfin, on a été... j'ai commencé à rentrer dans la combinaison, donc le bas ça allait. La différence c'est que on va dire la partie intermédiaire au niveau des hanches, elle m'arrivait déjà au sommet des fémurs, donc un peu. Et quand il a fallu mettre le haut, là ça a été, il y avait trois personnes pour m'aider. Et tant bien que mal, on a tiré dans tous les sens, c'est rentré. C'est rentré, on a réussi à fermer la fermeture éclair.
Sans qu'elle craque.
À mettre le dossard. Et à partir de ce moment-là, j'ai arrêté de bouger. Je n'avais peur. En fait, la combinaison était tellement tendue que le tissu imprimé, ça l'avait distendu. C'est-à-dire qu'elle était presque comme un linge qu'on laisse trop longtemps au soleil, délavé.
Oui.
Plus blanche.
Oui, mais je me rappelle des photos, il y en a une là-bas, elle est plus blanche. Voilà. Le rouge, notamment, voilà, il est bien rose.
Il est bien rose, ouais. Oui. Et derrière, j'ai trouvé une paire de gants fins, et puis voilà, et puis je suis parti comme ça. Et quand.
C'est bien, tu étais plus profilé en même temps, comme ça, tu étais obligé de rester.
Oui, parce que Florence, quand je levais les bras, comme j'ai levé les bras à l'arrivée, bah, je ne les ai pas levés longtemps parce qu'en fait, elles me serraient tellement au niveau de la hauteur du bus que ça me relevait un peu tout le matériel. Donc c'était un peu gênant.
Oui.
C'était super gênant, même. Mais bon, elle a tenu le choc. Et Adrien, je la remercierai toute ma vie parce que sans le fait qu'il avait une combinaison homologuée pour faire l'inspection, pour s'échauffer, j'aurais jamais pu courir.
Mais une fois que tu as mis cette combine, après, tu es rentré dans le truc, c'est-à-dire que tu étais focus.
Ah, mais j'étais jamais sorti.
Ouais, tu es jamais sorti. En fait, ça,
je suis resté super.
C'était un aléa
voilà,
improbable, pour le coup, quand même, parce que tu.
Ah, mais plus qu'improbable.
Voilà.
Quand tu racontes ça, d'ailleurs, j'ai un peu honte de le dire à tes auditeurs, mais quand tu racontes ça, alors que tu as fait, on va dire, 10 ans de carrière en Coupe du Monde, c'est-à-dire pendant 10 saisons, répéter la même chose, sachant que quand on était jeune, on faisait à peu près 70 courses dans l'hiver. Donc, tu te dis, mais attends, ce jour-là, qu'est-ce qui t'est arrivé dans qu'est-ce qui s'est passé? Pour oublier, on va dire le basique, c'est le basique.
Ouais.
Et tu vois, à aucun moment, c'est là où c'est surprenant, et c'est là où je me dis que quelque part, j'arrivais à maîtriser plus facilement mes émotions. Et l'objectif qui était le mien, il est resté en permanence dans mon esprit. C'est-à-dire, à aucun moment, j'ai paniqué. À aucun moment, j'ai paniqué. C'est-à-dire, même quand le kiné, au bout d'une heure, il revient... pas une heure, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, il vient me dire, tiens, on ne trouve pas. Même là, je n'étais pas paniqué. Je lui dis, mais sans combinaison, je ne peux pas courir. Elle dit, ouais, tout le monde le sait. Mais on fait comment? Alors, je dis, ben attends, on va demander aux équipes étrangères.
Ah oui, bah oui, oui.
Et puis là, le DTN de l'époque, il dit non, ça c'est pas possible, c'est pas nos partenaires, c'est pas ci, c'est pas là, on est au jeu. Ouais. Et même là, tu vois, j'ai pas paniqué. Et je te dis, l'arrivée d'Adrien Duvillard dans le restaurant, ça a été, on va dire, la lumière au bout du tunnel. J'avais pas peur du noir, j'étais pas claustro, mais voilà, j'étais vraiment enfermé dans un tunnel avec zéro issue. Jusqu'à ce que, voilà, ça a été un peu le soleil qui est rentré dans le restaurant. Et en 30 secondes, hop, on a pris la décision. Et puis, c'est passé comme ça, quoi.
Et après, tu vas au départ. En général, c'est à peu près 20 minutes avant.
Chaud,
tu t'échauffes. Voilà,
un quart d'heure, 20 minutes.
Tu avais un rituel particulier avant de mettre les cannes sur le portillon
derrière le portillon. Après, tu reproduis le rituel de la Coupe du Monde. Parce qu'en fait, les Jeux, c'est quoi? C'est une épreuve où tu représentes un pays où il y a moins de coureurs au départ parce qu'ils prennent que les 4 meilleurs de chaque nation. 5 quand il y a le champion olympique dans la nation. Et donc, mais après, c'est exactement la même chose qu'une Coupe du Monde. C'est-à-dire que tu as des adversaires qui partent devant, qui partent derrière. Tu as une piste à dominer qui est aussi un adversaire. Mais le rituel, à partir du moment où j'étais habillé, le rituel a été inchangé. J'ai rien changé. De toute façon,
mais justement, ton rituel, tu te disais, tu avais des exercices particuliers ou pas spécialement?
Non. J'avais mon rituel, on va dire, d'ancien déjà. Ouais. Et je l'ai mis en application, comme je le mettais en application depuis.
Tu te disais quelque chose de particulier quand tu mettais les cannes sur le portillon? Tu étais centré sur quelque chose en particulier ou...
Ouais, fais-toi plaisir.
Non, mais c'est important.
Oui, oui, c'est vrai que c'est important. Fais-toi plaisir et en te faisant plaisir, tu prends moins de risques. À la limite, tu joues avec la piste et tu as moins de risques de te faire mal. Voilà. Et c'était mon rituel depuis que depuis qu'on avait créé les Top Gun, donc depuis 89.
Mais justement, parce que là, quand même, sur cette piste qui a changé, puisqu'elle a accéléré, qui n'a pas eu d'entraînement depuis...
C'est à l'inspection que j'ai pris une décision importante.
Et là, Dossard 3, il y a eu quelques ouvreurs moyens, parce que japonais, et pas... Voilà, enfin, j'ai rien contre les japonais, mais ce n'était pas le même niveau que les Jeux Olympiques. T'as pas beaucoup d'informations sur la piste, mais à la reconnaissance, t'as vu que...
J'ai vu un truc qui m'a marqué.
Voilà, qui a marqué aussi un mec qui est parti un peu derrière toi, Hermann Mayer,
Lui, ça l'a marqué profondément au niveau du corps. Mais à l'inspection le matin, j'ai constaté une chose. Avant le mauvais temps, on avait une neige qui était très froide. Donc une neige froide, pour les non-initiés, c'est une neige qui a du mal, où on a du mal à faire glisser les skis. En tout cas, l'accélération est moindre. Et le départ, c'était un lançoir avec un plat remontant et qui bouclait sur la droite avant une cassure. Et donc, lors des entraînements, on arrivait à plat ventre et on ne décollait pas parce qu'on n'avait pas de vitesse. Et le matin de la course, donc de ce vendredi 13, j'ai fait comme les autres inspections, c'est-à-dire je suis parti, j'ai reconnu du sommet, mais bon, il n'y a pas grand-chose à reconnaître, c'était tout droit. Et en arrivant au bout du plat, je suis arrivé en étant debout, je suis arrivé à des vitesses incroyables. Quoi. Mm-hmm. Et là, j'ai dit, attends, ça m'était déjà arrivé en Super G, à l'entraînement, à l'entraînement, il y avait une neige froide, et puis le jour de la course, ça avait changé, et on avait perdu tous nos points de repère. Je lui ai dit, là, si on arrive à plat ventre, à mon avis, ça ne passe pas. Mm-hmm. C'est bien simple, c'est que vous avez au bout du lançoir, vous avez un long virage à 60 degrés d'angle, une cassure et un virage à 90 degrés avec un dévers.
Et là, tu es arrivé à peu près à 120 km/h, quoi, minimum.
Là, oui.
Ouais, minimum.
À plat ventre, oui. Ouais. Hermann Mayer est arrivé à peu près à 120 km/h. Ouais. Il a fait 50 mètres en l'air avant de toucher la neige.
Oui, c'est ça, il a touché la neige.
Moi, je suis arrivé avec. J'avais perdu énormément de vitesse, mais c'était volontaire. Après, j'ai entendu plein de choses depuis ce fameux vendredi 13 où les gens, même les descendeurs les plus confirmés, que ce soit en France ou ailleurs, on ne fait jamais ça normalement. Mm-hmm. Bien sûr qu'on ne le fait pas. Notre but en descente, comme dans toutes les épreuves de vitesse, enfin de ski en général et de sport en général, c'est partir d'un point A pour aller à un point B le plus vite possible pour gagner. Mais là, il s'est avéré qu'à plat ventre, enfin, moi, j'ai estimé le matin à l'arco qu'à plat ventre, ça ne passerait pas. Donc, volontairement, à l'entrée du virage du long droit, je me suis relevé pour utiliser mon corps comme un frein moteur. Quoi. Et arriver déjà avec un visuel plus haut, donc on peut voir derrière la porte où elle est située, on retrouve plus rapidement ses repères derrière la cassure, parce que sinon, vous ne voyez rien. Et avec la vitesse moindre, absorber plus facilement la bosse et prendre contact tout de suite dans le dévers et dans le virage, l'entrée du virage à 90, plus rapidement pour pouvoir mieux gérer le virage à 90. Voilà, ça a été un fait de course juste hallucinant, d'après certains qui ne comprennent pas. Je crois que le seul que j'ai entendu en interview, c'est Hermann Mayer qui dit ben. Non, Jean-Claude Killy aussi. Mmh. Jean-Claude Killy a dit la même chose. Il dit, ce jour-là, il fallait peut-être faire ça.
Oui, c'est sûr, même.
Sans le faire, ça passe.
Mais ce qui est dingue aussi, c'est, en parlant de ça, donc tu pars 3, tu skis super bien tout le long et tout ça, mais bon, ça fait longtemps que, comme tu dis, la piste s'est accélérée, on ne sait pas trop, tu arrives en bas quand même, tu lèves les bras, parce que tu sais que tu as fait une perf de...
Non. Je lève les bras parce que le Dossard 2, c'est... comment il s'appelait ? Le Dossard 2, c'est... Qui a été champion olympique à Salt Lake en descente. Pas Schifferer.
Eberhardter ?
Non, pas Eberhardter. Il ne courait pas.
Strobel ? Fritz ? Non.
Fritz Strobel. Voilà. Fritz Strobel, il partait deux. Et Fritz Strobel a gagné le dernier entraînement. Et quand je vois mon nom au-dessus du sien avec moins une 23, je lève les bras. Bon, il y a deux choses. La raison pour laquelle je lève les bras, c'est que c'était ma manière à moi aussi de relâcher la pression qui était la nôtre depuis 4 jours. Ça, c'est le premier point. Puis après, quand je vois le tableau et que je vois Jean-Luc Chrétien en haut, déjà, ça marque. Même si on part que 3, on oublie presque qu'on part que 3. Et puis après, je savais, moi, au départ, que je partais quand même derrière le vainqueur du dernier entraînement sur cette piste. Donc, dans ma tête, je m'étais dit, si tu arrives en bas et que tu es devant lui, tu auras fait un beau truc. Et quand je vois que je suis devant lui, donc la combinaison de mon nom au sommet de la colonne des résultats avec moins une 23, enfin, le en face de son nom, plus une 23, là, je me dis, coller une 23 à celui qui a gagné le dernier entraînement, une seconde 23, c'est quand même juste énorme. Sur une descente qui fait 1 minute 50 et 11 centièmes.
Un tableau pas loin.
Donc ça, c'est juste... voilà. Et la combinaison de tous ces facteurs, il y a une satisfaction.
Et derrière, tu vois Herman tomber.
Et derrière, voilà, Herman partait 10 secondes plus tard. Donc, bien sûr... Première chose, je me mets tranquillement devant le grand écran, comme tous les spectateurs dans l'air d'arrivée. Et là, je dis, bon, on va savoir tout de suite. Oui. Et je le vois s'envoler, mais j'ai dit, mais comment c'est possible? Et quand je vois le ralenti, parce qu'à l'époque, il montrait, quelle que soit la santé du coureur, il montrait tout de suite le ralenti. Et quand je vois le ralenti et je le vois arriver jusqu'au dernier moment à plat ventre, mais à plat ventre, c'est-à-dire... couché sur les cuisses, je dis, il est arrivé à plus de 100 km/h et il s'est envolé, quoi. Et c'est exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'au moment où il s'est rendu compte de ça, il a voulu peut-être freiner, mais bon, on a un millième de seconde et derrière, les pieds sont montés, il est parti à l'horizontale, il a fait 50 mètres avant de toucher la neige. Heureusement pour lui, la neige était un peu plus molle que lors des entraînements, parce que c'était de la glace. Et puis, on avait pris quasiment, souviens-toi, 1 mètre de neige. Donc, ils n'avaient pas pu tout évacuer. Et c'est ce qui l'a sauvé aussi, parce qu'il franchit quand même 2 rangées de filets, voire même peut-être 3. Et il finit un matelas moelleux de neige fraîche. Oui. Bon, le mal était fait. Hein, il a été quand même bien secoué, mais...
48 heures après, les champions olympiques de Super G.
Exactement, c'est ce que j'allais te dire.
Herminator.
Et une semaine après, de géant.
Oui.
Donc c'est Herminator, mais quand on voit les photos de son corps, on se dit, là il va falloir que derrière ils mettent tout leur savoir-faire pour le remettre sur pied. Quoi. Oui.
C'est un des adversaires qui t'a le plus impressionné, Herman?
Herman, il m'a impressionné par, je ne veux pas voir l'état de son corps au jour d'aujourd'hui avec le temps, mais par son accident de moto, les dégâts causés.
Et regagner derrière.
Ouais, et revenir là où il est comme
il avait la jambe coupée.
Après, on sait très bien que, à un moment ou un autre, on paye un peu le pot cassé. Et je vais continuer à éplucher un peu les news pour voir, en général, quand ils ont des soucis, surtout en Autriche, comme la presse suit énormément les anciens coureurs comme les nouveaux, tu as tout de suite l'information. Là, j'ai appris qu'il y avait des fiançailles qui ont été célébrées. J'ai appris par l'ORF, tu vois.
Oui, entre Chyprine et...
Voilà.
et Kildo.
Exactement. Et oui. Je l'ai appris comment? Je l'ai appris par l'ORF.
Ah oui.
Donc, je lis, je parle pas et je lis pas l'allemand, mais avec les traductions, tu comprends vite. Et donc, tu suis tous les coureurs qui ont été tes adversaires parce que, quelque part, on est... Même si on est, on va dire, dans notre bulle, on est des simples humains, quoi.
Oui, et puis nous, on n'est pas en plus, on n'est pas en duel. Nous, c'est le chrono qui nous départage.
C'est le chrono et la piste.
Donc,
voilà, c'est... Bien sûr que c'est des adversaires, mais bon, ils ont le même problème que toi.
Oui.
C'est-à-dire que la piste, le chrono, chacun est maître de son destin.
C'est clair. Et donc, quand même, on va revenir à ce titre. Donc là, tu vois les adversaires... buté largement contre ton chrono.
Oui, jusqu'au dernier.
Bah oui.
Le nom du dernier, Brian Stemley.
Ah oui, parce qu'il a...
Une seconde d'avance à l'intermédiaire de la piste.
Ah oui.
Une seconde d'avance sur mon chrono personnel. Et là, jusqu'au 47, t'as les jambes, elles te portent plus. Oui. C'est les chaussures de ski qui te tiennent debout. Et malheureusement, il se fait prendre un ski et ça lui impose de tailler une courbe plus à l'intérieur. Et derrière, la porte d'après, il ne peut pas aller la prendre. Donc, il sort. Mm-hmm. Et là, c'est la délivrance.
Oui. Les émotions, là, ça revient encore.
Ouais. On va faire court les réponses.
non, mais c'est. J'adore, moi j'adore ça parce que ce sont des très belles émotions, mais c'est des émotions sur le moment. Et puis c'est des émotions. Parce que le podium est fait dans l'air d'arrivée, et après il y a une cérémonie après à Nagano. Tous ces moments-là, tu t'en rappelles ou alors tu l'as vécu. Ouais, c'est tout ancré. D'accord. Ouais. Chaque seconde.
Je peux même te dire que l'émotion à Nagano, donc la cérémonie des fleurs une semaine après.
Quand une semaine après ?
Ouais, une semaine.
Ah oui, d'accord.
Ouais, parce qu'ils voulaient faire plusieurs cérémonies et ils ont fait la cérémonie du Super G en même temps. Donc déjà deux jours là, puis après il y avait je sais pas quoi, et donc ça a été repoussé peut-être pas une semaine, pas sept jours, mais six jours, six jours après. Et je me souviens très bien. Ne plus arriver à bouger du podium. C'est-à-dire que c'est la dame qui t'amène les fleurs, oui, qui est venue me chercher, me prendre la main,
oui,
pour m'aider à redescendre du podium, j'arrive plus.
Oui. Oui, parce qu'après, en général, les podiums s'enchaînent, parce qu'il y a aussi les sauteurs, il y a les autres, et en fait, il faut que tu...
Mais j'avais plus de jambes, les jambes ne me portaient plus.
D'accord.
Et donc, j'étais tétanisé.
Oui.
D'ailleurs, il m'a fallu... On va dire, il a fallu qu'on rentre en France pour que véritablement je réalise ce que ça représentait.
Oui.
Parce qu'après, on nous a mis un petit peu sous cloche. Le Super G, bon, le Super G, j'ai tiré mon dossard, mais j'ai pris une remontée de bretelles par Mauro Cornaz à l'époque, notre responsable de vitesse, parce que j'ai pris le 1. Et là, il me regarde, il me dit, mais t'es fou. Et puis là, il rigole, il dit, bon, je te comprends, allez.
Oui.
C'était plus pour garder un souvenir, si tu veux.
Oui, toi,
voilà,
c'était
j'avais fait ce que j'avais, ouais, ce pourquoi j'étais allé là-bas.
Ouais.
Mais la folie furieuse, ça a été le retour en France, l'arrivée à Genève. Genève, c'est pas Paris, hein, c'est beaucoup plus petit. Quand les portes se sont ouvertes, t'as l'impression d'être au Stade de France dans un concert de Johnny Hallyday, quoi.
Oui. Ouais, et puis nous, en plus, on n'a pas trop l'habitude de ça dans le ski, quoi.
On n'avait aucune habitude, toujours. On était livrés à nous.
Toi, ça a été c'est parce que j'ai une des questions des auditeurs, d'Eric. Il me dit, es-tu préparé finalement à ce choc émotionnel ?
Non.
Parce que même, toi, ta blessure, on parle de Valgardena quelques mois après, tout comme Antoine Deneria, pareil, tous les deux champions olympiques, et puis chute derrière aussi, tu vois, cet ascenseur qui... Mais est-ce qu'on peut s'y préparer aussi ? Mais pas évident.
On va dire, comment expliquer ça aux auditeurs ? Une fédé ayant des moyens, comme une fédé autrichienne ou suisse, où le budget est le double ou le triple de la France, je pense qu'ils ont des gens qui sont à même de préparer le coureur ou en tout cas de les accompagner. Moi, ça a été du grand n'importe quoi.
Oui.
Pour te dire, à un point où donc tu as les partenaires fédéraux qui, naturellement, quand t'attends 30 ans une médaille et que d'un seul coup il y en a une médaille en descente et olympique, il t'impose des choses juste hallucinantes. C'est-à-dire qu'entre deux stages, ils étaient capables de me faire partir d'ici pour aller en Bretagne, faire une soirée pour leur, comment on appelle ça, pour leurs employés.
Leurs clients, oui, ou leurs employés.
et revenir dans la nuit pour que le, 2 jours après, je puisse partir en stage. Ouais. Voilà, c'est ce que j'ai fait.
D'accord. Ouais, je me rappelle, tu avais dit, je ne sais pas combien de milliers de kilomètres, mais tu avais fait 80 000 kilomètres
ouais.
Dans l'été.
Dans l'été,
fait, ouais. Il me semble que tu avais dit ça.
Et je me suis rendu compte de ça sur un stage où on est arrivé à Zermatt. Mais bon, le problème était consumé et c'était trop tard. Mais à l'automne, à Zermatt, on est arrivé en stage. Derrière, on va dire, la fenêtre météo avait changé. On est resté 4 jours à l'arrêt à cause du mauvais temps. Et j'ai dormi pendant 3 jours. C'est-à-dire que même oui. L'hôtel me servait mes repas en chambre. Oui. Pour te dire à quel point il y a eu un... Je suis allé loin pour faire plaisir à tout le monde, ce qui est normal, hein. Mm-hmm. C'est un juste retour.
C'est ce qu'on appelle aujourd'hui un burn-out.
Je pense que j'ai eu droit à mon burn-out à l'automne, qui a précédé d'ailleurs ma chute à Valgardère, puisque là, on était en octobre à Zermatt, et pendant 3 jours, je n'ai pas bougé du lit. Hein. Mm-hmm. Je n'ai pas bougé du lit. J'ai coupé tous les téléphones, parce qu'à l'époque, il fallait que je me débrouille pour la presse, je me débrouille. Tout mon agenda était organisé par moi-même. Et il fallait toujours dire oui, parce que dès que je disais non, je prenais des coups de fil de nos dirigeants de l'époque, en disant, oui, tu ne peux pas nous faire ça, c'est un partenaire, Patin, Couffin, c'est ci, c'est là. Après, j'avais mes propres partenaires, auxquels je ne pouvais pas dire non plus. Mais rien n'était planifié en amont. C'est-à-dire que tout arrivait du jour, pas pour le lendemain, mais du jour pour la semaine d'après. Quoi.
Tu vois, c'est la différence entre une médaille d'or et une médaille de bronze. Parce que moi, ça a été quoi l'été.
Oui, moi, ça c'est... Alors, je vais te dire aussi, il y a eu une période juste hallucinante. Puis après, il y a eu la Coupe du Monde de foot.
Oui.
Et ça s'est calmé aussi.
Oui.
Mais le mal était fait. Mm-hmm. Et pour en avoir parlé à l'époque avec Mauro, parce que Mauro, au bout d'un moment, il venait quand même voir dans la chambre si tout allait bien, quoi. Mmh. Mais j'étais incapable, je n'arrivais plus à rien faire. Mmh. C'est-à-dire que j'étais devenu complètement léthargique. Mmh. Il fallait que je dorme, je récupère, je récupère, je récupère. Donc je sortais, j'allais m'oxygéner en allant faire un peu de marche, un petit footing, et je revenais, je me mettais au lit et je dormais jour et nuit. Mais un truc de fou. Mmh. Et là, pour en avoir parlé, je pense que ça a peut-être ouvert aussi les yeux à... Mmh. En tout cas, les coachs ont fait remonter l'info dans ce sens-là.
Oui.
Et je pense qu'à partir de ce moment-là, il a été créé une cellule qui gère un peu mieux les coureurs. Mmh. Malgré le fait qu'on est toujours sport amateur, je pense que le ski s'est professionnalisé. Mmh. Et maintenant, c'est beaucoup plus... C'est pas simple.
Il y a des attachés de presse.
Voilà.
Y a,
ouais, mais c'est plus facile. Mm-hmm. En tout cas, ça met moins le coureur en pression permanente. Mm-hmm. Moi, je sais qu'il y a eu des moments de folie. Quoi. Mm-hmm. Je partais presque en stage avec le sourire et la balade parce que je savais que j'allais me reposer.
Oui. C'est dingue.
C'est un truc de fou. Ouais.
Et donc, finalement, tout ça, ça t'amène à ce début de saison qui suit.
Oui.
Et donc, le 15 décembre, à cette chute où tu te blesses...
Alors, je commence la saison plutôt bien, puisque à Aspen, je fais 7e du Super G.
Oui.
Donc, sur les terres américaines, c'était avec la 2e place l'année d'avant. C'était plutôt de bon augure. Voilà. Au débriefing avec les coachs, notre chef d'équipe, Mauro, était super confiant. Quoi. Il me dit, putain, super, ça repart comme l'année dernière. 7e, c'est pas 2e, c'est vrai. Mais 7e en Super G, c'est ton 2e meilleur résultat. Donc, il me dit, je valide une super saison. Après, on rentre. Après, il y a Val d'Isère. Val d'Isère, je gagne la course jusqu'au 2-Sart-31.
Oui.
Après, changement de... Il y a eu un accident, changement de conditions de neige en haut. Je finis 12e. Derrière les Slovènes, derrière les... Mmh. Donc là, déjà, ça c'était quand même une première victoire pour moi. Quoi. Dans le top 30, j'étais premier, voilà, on va dire. Et à partir du 35, 36, ça a changé. Il y a eu un changement radical. Quoi. Mmh. On prenait une seconde et demie.
Et là, tu repars frustré, en fait.
Ah ouais, surtout à la maison.
Oui, c'est ça. Oui.
J'y avais déjà été frustré en 92, mais là, tu repartais avec une deuxième couche, on va dire. Mmh. Et puis là, il y a eu un petit temps mort. On est parti s'isoler. Parce que Mauro, il sentait que j'avais besoin d'être isolé pour être tranquille. On est parti faire un super stage à Pila, la station au-dessus d'Aoste. On a fait un super stage où on développait des manches de folie toute la journée. On a fait 3-4 jours là-bas. Puis après, on est parti Val Gardena. Puis Val Gardena, ça a été le drame. Une faute d'inattention, le genou qui casse à la réception de la bosse, j'arrive pas à m'arrêter sur la glace, je file en dehors de la piste, cette année-là il n'y avait pas de neige, donc je dévale le talus en cailloux au milieu des racines d'arbres, je me retrouve bloqué entre un caillou et une racine, impossible de bouger, le genou explosé, la main explosée, des énormes contusions au bas du dos, c'est encore une fois Mauro Cornas qui vient me chercher. Donc les fixations serrées à 300 kg, impossible à enlever le ski. Le tibia péroné qui revenait à la moitié du fémur à cause de la tension, parce que le ski était coincé contre une souche et donc le poids du corps faisait pousser le fémur en avant et le ski poussait le tibia péroné en arrière. Donc je voyais que ça revenait.
Il y avait un truc qui manquait. Quoi.
Dans la jambe. Donc il a fallu enlever le ski et là il m'a pris dans ses bras, assis sur la terre et on est descendu sur, il est descendu sur les fesses, moi assis sur ses genoux jusqu'en bas de la pente et là ils m'ont mis dans un traîneau illico, sto. Voilà. Résultat, la totale au niveau genou gauche, plateau tibial, ménisque, latéral, croisé. Ça tenait plus que par la peau. Voilà. Et puis là après le retour a été long, malgré le fait que, on va dire, j'ai voulu faire un exploit, mais il m'en mord encore les doigts. C'est-à-dire que c'est un peu à l'image de ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que les médias français, sans gestion, ou en tout cas avec une gestion personnelle, ils insistaient, la Fédé poussait aussi. 2 mois et demi, 3 mois après, j'étais à Tignes sur le glacier pour faire une journée avec la télé. Et je, on va dire, 25 ans après, je le paye encore maintenant, quoi. C'est trop tôt. Donc, il y a eu des micro-séquelles et ça a été super long à retrouver des sensations, retrouver le ski qui était le mien. Là-dessus, quand j'ai fait ma demande pour revenir, j'avais passé le délai des 2 ou 3 années blessure, donc qui te permet de garder
les points,
tes avantages. Et là la FIS me demande de, enfin m'autorise pas à revenir en Coupe du Monde, elle me demande de faire un tiers de la saison en Coupe d'Europe pour refaire mes gammes. J'avais 33 ans, hein,
oui.
Je leur ai dit écoutez, vous êtes gentil, merci, au revoir. Voilà la fin de carrière d'un champion olympique.
Ouais.
C'est fou. Et donc, dans la foulée, je suis parti aux US pendant 3 hivers. Une société événementielle organisait des descentes par équipe. Donc, il y avait 2 Français, 2 Suisses, 2 Autrichiens, 2 Allemands. Et elle faisait un show à l'américaine. Ils installaient des voitures sur la piste. Ils faisaient créer des tremplins. Et on faisait 4 courses en hiver. Et donc, voilà, le niveau de ski était revenu, mais bon, j'étais passé à autre chose.
Là, c'était des courses pro où tu étais rémunéré à la victoire.
Voilà. À la victoire, il y avait plein de primes, il y avait un speed test à un moment. Voilà, c'était des courses professionnelles, exactement. J'ai basculé dans le professionnalisme et ça a duré pendant 4 ans. Et puis après, au bout de 4 ans, j'ai dit bon, on va peut-être essayer de faire autre chose. Là-dessus, n'ayant pas de diplôme, étant toujours passionné par le ski, à part mon diplôme de moniteur, j'ai fait pendant 2 années de suite ma demande pour être entraîneur à la Fédé.
Okay.
2 demandes qui m'ont été gentiment refusées.
Ouais, je ne savais pas ça.
Ouais. Ouais. Gentil, mais oui. Merci, mais au revoir. Là-dessus, j'avais un ami qui travaillait à l'époque, qui travaillait pour le qui était champion olympique et qui...
Un appel en direct de notre...
De mon médecin.
Médecin, il lui entend.
Là-dessus, j'avais un ami dont j'avais fait la connaissance quand j'étais monté à Paris recevoir la Légion d'honneur, qui était conseiller au sport auprès de M. Chirac. Il s'appelait Jean-François Lamont, champion olympique aussi.
Il est au micro de Beltrace.
Voilà, et on avait super bien accroché, et on s'était revus, on avait fait... Chaque fois que je montais à Paris, je passais le voir, puisqu'il avait son bureau à l'Élysée, et on mangeait ensemble, enfin bon. Et donc, quand, au bout de deux refus au niveau fédéral, je l'appelle, je lui dis, écoute, Jean-François, voilà, la situation, elle est celle-là. J'ai pas de diplôme parce que j'avais mis entre parenthèses mes études que j'avais pas poussé bien loin déjà et puis puisque je m'étais orienté par rapport au ski. Je dis j'ai fait 3 ans ou 4 ans aux États-Unis des circuits pro, mais bon ça me fatiguait un peu de continuer sur ce rythme là. C'est pas bon pour la planète, on va dire maintenant. Et je lui dis, voilà, j'ai fait deux demandes auprès des instances fédérales pour être entraîneur. On m'a dit, écoute, t'as un peu trop de caractère, je pense que ça va pas faire, patin coup fin. Donc on m'a gentiment dit que c'était pas possible. Je lui dis, voilà, on est au mois d'octobre, je sais pas quoi faire. Il me dit, ben écoute, on va voir, je te rappelle, voilà. On va voir ce que je peux faire à mon niveau. Et donc là, en parallèle d'une formation d'entraîneur national, ils ont ouvert un poste d'assistant au niveau du ski études de Bourg-Saint-Maurice pendant 4 ans.
D'accord.
Et donc j'étais l'assistant du responsable du ski études et pendant les hivers, pour parfaire ma formation d'entraîneur que je suivais à Chamonix. Ben, j'assistais une centaine d'élèves, puisqu'il y a 4 classes de 25, oui, c'est ça, 25-26.
Et ça te plaisait de transmettre
Ah, mais c'est un pur bonheur. Oui. C'est un pur bonheur pour la bonne simple raison que j'étais passé dans l'établissement en tant qu'élève.
Oui, oui.
C'est-à-dire que là, je revenais de l'autre côté de la barrière en tant que prof. Et j'ai découvert tout ce que tu ne vois pas quand tu es élève, et que tu découvres quand tu es prof et confronté aux parents, et confronté à l'éducation nationale... Et ça a été un peu du pain béni. Pendant 4 hivers, ça a été un régal. Mmh. Ça a été un régal. Et puis, pour moi, c'était aussi une manière comme une autre. J'ai eu des coureurs comme Jean-Frédéric Chapuis, quand même.
Oui.
Donc, je leur ai donné tout ce que ma carrière m'avait apporté. Je leur mettais à disposition. Mmh. Il y en a qui prennent, il y en a qui ne prennent pas. Mmh. Mais ceux qui ont pris, je me régale de voir les carrières qu'ils ont faites, parce que quelque part, je me dis, bon, bah, ils ont pris ce qu'il y avait à prendre, et ils l'ont mis en application pour eux. Mmh. Après, avec leurs moyens à eux, avec leur technique à eux, mais
oui.
Ce que je veux dire, ça a été super instructif. Quoi. Mmh. Et donc ça a été pendant 4 ans, ils ont ouvert ce poste. Après, du jour au lendemain, le poste a été fermé, et là, tout le monde était content, hein. La Fédé, le comité, les clubs, les parents. Et du jour au lendemain, on me dit, bon, bah, maintenant, Jean-François, il me dit, il faut que le monde du ski se prenne en charge. Quoi.
Oui.
Et donc, on a fait les démarches avec le responsable du ski études, auprès du comité, auprès de la Fédé. Et il ne voulait pas prolonger mon truc. Donc, ces 4 années ont été super instructives. Et derrière, heureusement que j'avais toujours des partenaires qui me suivaient. Et on a commencé à partir sur autre chose. C'est-à-dire que j'ai pris mon bâton de pèlerin avec ces partenaires-là. Je leur devais des journées. Et ces partenaires ont dit, bon, ben, ces journées, on va les mettre en application de cette manière-là, si tu en es d'accord. Et donc, j'accompagnais les gens au ski à partir du moment où ils voulaient acheter des skis pour leur expliquer le développement qu'on faisait dessus et ce qu'ils avaient au pied. Puis ça a commencé comme ça.
Et t'es toujours dans le ski.
Et 15 ans après, c'est toujours comme ça. Je travaille toujours. Là, maintenant, je travaille avec quelqu'un d'autre. Je travaille avec Stéphane Exartier.
D'accord.
Qui a créé depuis 7 ans sa marque de ski en Suisse. Et c'est un vrai régal parce qu'on a été coureurs ensemble. Et donc, les messages passent super bien. Et Et l'évolution, bah, elle est ce qu'elle est, mais bon, il a l'air d'être content, donc tant mieux. Et alors, la dernière nouvelle, Flo, là je te donne un scoop, c'est que j'ai la maison Salomon qui souhaiterait me rééquiper.
Oh.
Un truc de fou, il va neiger demain. nous sommes le 5 avril et demain il neige. La maison Salomon, oui. Pour qui j'ai ramené une médaille avec les trois produits. Et à l'époque, en 98, le grand patron de la maison, bon, les choses comme quoi, les choses changent vite, devant 3000 personnes au salon de Montagne Planète à Grenoble, il avait annoncé que ce que j'avais fait pour Salomon était redevable à vie. Eh bien, la vie, ça va vite chez Salomon. Oui. Mais tu vois, comme quoi, de rester en contact. Et, oui. Et donc là, ils veulent absolument que je reskie avec leur ski. Mais bon, pour l'instant, je vais rester fidèle
parce
à ça.
Parce qu'aujourd'hui, tu enseignes de manière...
Alors, j'enseigne. Je fais de l'enseignement privatif et de l'entraînement privatif. Mmh. Voilà. Et je parcours avec certaines personnes qui ont envie de skier l'été. Je vais à Ushuaia, je vais en Argentine, à Las Leñas.
Tu retournes sur nos...
Figure-toi qu'avec certaines personnes, le fait de skier qu'un champion olympique, bon, bien sûr, il y a le titre, mais ils voudraient, c'est des gens qui n'ont pas fait du sport de très haut niveau, ils voudraient connaître... on va dire toutes les péripéties.
Qu'il y a derrière aussi, oui.
Donc je suis allé à Lillehammer avec certains clients, je suis allé à Kitzbühel avec certains clients. Et donc ils veulent, voilà, que si tu veux, leur séjour, je leur imprègne un peu le.
C'est génial.
La vie qui était la vie du coureur sur une période bien précise qui est la période de la Coupe du Monde.
Oui, parce que c'est des choses qu'ils peuvent pas vivre.
Exactement.
Quel que soit l'argent qu'ils...
Ils peuvent pas vivre, donc
ils peuvent pas l'acheter, ça.
Les faire rêver par rapport aux explications qu'on leur donne et de les projeter dans un univers imaginaire. Mais pour eux, c'est ils vivent autre chose. Voilà ce que je fais. Et sinon, l'été, j'ai une propriété, j'ai 110 oliviers, je m'en occupe.
Oui, d'ailleurs, j'ai dans une petite bouteille d'huile, je vais me régaler. Merci beaucoup.
j'ai fait ma première récolte l'été dernier, parce que c'est tout frais, tout récent. Et donc, j'ai une vie qui est intéressante, passionnante, et surtout, je fais ce que j'ai envie de faire. Voilà.
Ça, c'est très important.
Que quand j'ai envie de travailler, je vais travailler quand j'ai cette chance de pouvoir le faire, surtout.
C'est clair. Bon, alors, on a largement dépassé les 45 minutes. On est à 1h12.
Coupez
tout. C'est pas grave. Non, j'adore. Bon, moi, j'adore. Non. Mais je vais quand même finir par mes questions traditionnelles. Allez. Est-ce que tu as une devise dans la vie?
Si j'avais une devise dans la vie...
Si tu avais une devise dans la vie.
Ça serait celle que je m'applique. C'est-à-dire, fais-toi plaisir et la vie te le rendra quelque part. Tu te fais plaisir et quelque part, en te faisant plaisir et en faisant plaisir autour de toi, la vie elle t'apporte aussi des satisfactions et te fait plaisir aussi.
C'est clair. Alors, je vais te dire, par association d'idées, je vais te dire un mot, il faudrait que tu me dises à quel mot ça te fait penser. Ou mot, ou expression, ou phrase, tu peux développer. Non, franchement, ça va aller. Tu mets ta combinaison un petit peu petite et tu vas y arriver.
Allez, je suis concentré.
Descente.
Vitesse.
Ski.
Plaisir.
Jeux olympiques.
Hors normes.
Top Gun.
Mémorable.
La plagne.
Les racines.
Vitesse. Tu l'as dit tout à l'heure, mais...
Je ne vais pas te dire ski. Descente, sinon... vitesse, adrénaline.
Neige.
Apaisement.
Présent.
Ah, je bug là.
Tu peux me dire soin du ménisque.
Présent, il y a tellement à dire que le dire en un mot.
Non, tu peux dire une phrase, je ne suis pas comme ça.
D'accord. On paye cher les pots cassés.
On couine un peu au niveau des articulations.
Ah, ça couine.
Et donc l'avenir?
L'avenir, plaisir, donc neige, je ne pourrais pas vivre sans, ski, avec les moyens du bord.
Et alors, pour finir, mon podcast s'appelle Belle Trace. Qu'est-ce que c'est pour toi, une belle trace ?
Ben, en fait, ça peut représenter beaucoup de choses, surtout pour nous skieurs. Mmh. Une belle trace, c'est un pur bonheur, comme arriver à un col d'une montagne et découvrir une vallée où il n'y a pas une trace. Et tu sais que tu vas faire la première, tu feras la plus belle. Après, la belle trace, c'est, on va dire, dans la vie de tous les jours, c'est se faire plaisir tous les matins quand on se lève. On sait que la journée va être constructive. Une belle trace, c'est quand tu vois l'évolution de tes enfants et que tu vois on va dire leur montée en puissance, c'est aussi une belle trace. Et quand je dirais belle trace, c'est quand tu vois que à nos âges on a encore du tonus par rapport à des gens qu'on avait, qui ont le même âge qu'on avait à l'école avec nous et que tu vois qui font bientôt 10 ans de plus. Ça, c'est une belle trace aussi. Et chers auditeurs, voilà. Allez, continuez à écouter Belle Trace. Comme moi, je me régale.
Merci à tous, chers auditeurs passionnés. Vous savez qu'en ski, on récompense les jeunes skieurs avec des étoiles. Alors, si ce podcast vous a plu et que vous voulez continuer à suivre les Belles Traces et le faire découvrir aux amis, mettez non pas 3, mais 5 étoiles. Et pensez à écrire un petit commentaire pour m'aider à progresser et à dévaler les pistes. Allez, tchuss !